Bonsoir à tous. Tout au long de cette semaine, nous vous proposons d'écouter une série de conférences enregistrées ces 26, 27 et 28 juin dernier dans le cadre de l'Université chrétienne d'été de Castanet-Tolozon. Elle avait pour thème cette année « Une humanité des communautés ». Le philosophe Robert Redeker ouvrait la session avec « L'homme face à la crise de son humanité ».
Bon après-midi à tous. Je suis très heureux d'inaugurer, d'essuyer les plâtres peut-être, de cette université chrétienne d'été de Castanet. Alors à chacun son rayon, je laisse la théologie par exemple à d'autres, je n'irai pas sur le territoire de la théologie, mais je vais m'efforcer de regarder en philosophe, d'essayer de réfléchir en philosophe sur le thème qui est proposé cette année. Alors, le thème, c'est donc une humanité des communautés. Alors, je crois que le plan, je ne vois pas ici. Voilà, parfait. Le premier aspect que je voudrais aborder, c'est un constat, l'humanité est déchirée par la violence. Une humanité des communautés. On voit déjà un tiraillement. Le titre « Une humanité des communautés » suppose à deux suppositions. D'une part, il suppose l'unité de l'humanité, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, en reculant très loin dans l'histoire jusqu'au commencement. Et il suppose aussi la différence des communautés, unité et différence. Ce qui pose le problème de l'articulation, d'où la violence dont je parlais, de l'articulation entre cette unité de l'humanité et cette différence, ou ces différences entre les communautés. Mais cet énoncé affirme aussi implicitement autre chose qui me paraît très important pour un chrétien et qui est très combattu aujourd'hui, par l'antispécisme, par exemple, par une philosophe comme Donna Haraway, dont on reparlera, qui est une autre différence, donc qui est la différence de l'homme aux bêtes. Alors, je ne veux pas dire animaux, je préfère dire bêtes, parce que dans les animaux, il y a évidemment l'homme, et les bêtes, ce sont les animaux autres que l'homme. Donc, je dirais la différence de l'homme aux bêtes. Donc, ce sont deux différences qui sont présupposé par l'énoncé de ce thème. La différence entre l'homme et les bêtes, je crois que c'est l'homme vit dans des communautés alors que les bêtes vivent plutôt, nous verrons, j'essaierai de le montrer, dans des sociétés. L'homme vit dans des communautés dont le lien, parce qu'il y a un lien, n'est pas exclusivement biologique comme chez les bêtes. Mais il est sentimental et imaginaire. Alors parlons de communauté. Ne dit-on pas aimer sa patrie? Ne dit-on pas aimer le maillot de son club de football, de son club de rugby? Ou alors, comme j'ai été coureur cycliste au CO carboné dans ma jeunesse, de son club de cyclisme, aimer le maillot? Ce sont des communautés. La patrie, le club sportif, de foot, ou de rugby, ce sont des communautés auxquelles on est attaché, non pas par un déterminisme biologique, comme les bêtes le sont à leur société, mais auxquelles on est attaché par des sentiments et surtout de l'imaginaire. La patrie, par exemple, qu'est-ce d'autre que de l'imaginaire? Ça n'est rien d'autre que de l'imaginaire. Et par imaginaire, je ne veux pas dire faux. L'imagination ne veut pas dire fausseté. L'imagination est une des parties de l'intelligence humaine dans laquelle se révèlent des vérités, ou dans laquelle se révèle la vérité, peut-être. Donc, une communauté humaine, que ce soit un club sportif ou bien entendu une paroisse, on peut aussi prendre l'exemple d'une paroisse, n'est pas une société d'abeilles ou de fourmis, ou de loups, ou de tout ce que vous voulez. Bref, l'énoncé de cette série de conférences que j'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir rejoint le vieil Aristote Vous savez, ce philosophe de l'Antiquité grecque si important, Aristote, qui affirmait « l'homme est un animal politique ». Voilà, c'est ça, la différence. Et vous voyez, la communauté, elle est là. C'est ça, la différence avec les bêtes. Il est un animal politique. Alors, qu'est-ce que... Donc, la différence des fourmis, des abeilles, de tout ce que vous voulez. Et donc, il est social, comme les fourmis et les abeilles, mais imbriqué dans cette socialité ou cette sociabilité, il y a aussi l'aspect politique. Alors, je décide d'appeler politique toute collectivité dont les liens font appel à l'imaginaire, c'est-à-dire, au fond, toute collectivité humaine et sans doute aussi la famille, parce que l'imaginaire a une place très importante dans les liens familiaux. La question, vous voyez, c'était celle de la violence. Et le spectacle de l'histoire n'est pas gai, n'est pas très joli, à tel point que ne vous paraîtra pas fausse la remarque bien connue d'un grand philosophe allemand du XIXe siècle, Hegel, qui écrit dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire ceci, qui est assez terrible, et sur quoi nous pouvons méditer un peu. Donc Hegel écrit « L'histoire universelle n'est pas le lieu de la félicité. Les périodes de bonheur y sont des pages blanches. » J'en frissonne et mon teint blanchit. C'est-à-dire, les périodes de bonheur y sont des pages blanches, c'est-à-dire, qu'est-ce à dire ? Des pages qui restent à écrire. Non. Des pages qui ne peuvent pas, à cause de la nature humaine, qui ne peuvent pas être écrites. Les pages de bonheur ne peuvent pas être écrites. C'est ça le message terrible de Hegel que nous allons essayer de dépasser. Des pages qui ne peuvent pas être écrites, ça veut dire des pages contre nature. Tiens, tiens, vous vous souvenez du péché originel. Des pages contre nature. C'est pour cela qu'elles sont vierges, les pages de bonheur dans l'histoire universelle, parce qu'elles sont contre nature. Alors le philosophe parle ici, bien sûr, lorsqu'il nous dit que les pages de bonheur sont des pages blanches dans l'histoire de l'humanité, il nous parle bien sûr des groupes humains. Il est probable qu'il y a eu des vies individuelles heureuses depuis la préhistoire, depuis les commencements. Mais les pages de bonheur dans l'histoire sont des pages blanches parce que tout ce que l'homme édifie dans l'histoire est voué à la destruction. Est voué à la destruction non pas par la nature, est voué à la destruction par l'homme. L'homme élève des cités, élève des civilisations qu'il abat lui-même, qu'il détruit lui-même. Les pages de bonheur sont des pages blanches dans l'histoire. L'histoire est la vallée des larmes. Le bonheur serait donc par essence ce qui toujours immanquablement manque. Ce que nous cherchons et manquons en même temps. Manquons peut-être parce que nous le cherchons collectivement. Alors la question se pose bien sûr de ce que ce philosophe appelle bonheur. Les pages de bonheur sont des pages blanches. Mais alors qu'appelez-vous bonheur, monsieur Hegel, grand philosophe allemand du XIXe siècle? Alors je crois qu'il veut dire ceci, la vie sans la violence destructrice. C'est-à-dire sans la violence, il pense, c'est un philosophe de l'histoire, donc sans la violence politique destructrice. Ou encore, la vie épanouie, sans violence, comme ça. Mais aussitôt, une ombre vient inquiéter ce beau tableau, trop beau, trop naïf, d'une vie possible sans la violence destructrice. Une ombre vient tout de suite. Ce tableau d'une vie épanouie. Et vous allez voir pourquoi je dis que ce tableau de bonheur est trop naïf. Comme les désirs d'épanouissement de chacun peuvent entrer en contradiction avec ceux d'autres, ce que montre l'expérience de chaque instant, la violence est-elle évitable? Nous disons « épanouissez-vous ». Épanouissez-vous, c'est la route du bonheur. Mais alors, la violence est-elle évitable s'il y a l'impératif de l'épanouissement? La violence ne provient-elle pas justement de notre aspiration au bonheur, de notre aspiration à une certaine définition du bonheur, quand celui-ci est conçu comme satisfaction des désirs, satisfaction des passions, épanouissement de la personnalité, du caractère, quand le bonheur est conçu comme la réussite épanouissante. Quoi, que dites-vous, monsieur le conférencier ? Si, si, vous allez voir. Celui ou celle dont vous êtes en amour, c'est beau l'amour. Un amour encore transi, c'est palpitant lorsque l'amour est encore transi, peut vous trouver repoussant, repoussante, pas à son goût du tout. Ah zut, c'est violent, non ? Et pourtant, votre épanouissement passait par là. Adieu, épanouissement. Bonjour, violence. Au moins, violence du cœur. Ou bien, je ne peux m'épanouir qu'en devenant fort riche. Ce n'est pas le cas, rassurez-vous. En exploitant les autres pour y parvenir, en les rendant plus ou moins esclaves, plus ou moins malheureux, ou très malheureux. Hein, vous avez lu Zola, comme moi. Hein, vous savez ce qui se passe dans les mines en Afrique, avec des enfants esclaves comme moi, ou ailleurs. Mais je puis être l'exploiteur. Je puis trouver là-dedans mon épanouissement, mon bonheur, ma puissance. Ou bien je trouve mon bonheur dans le mal que je fais à autrui. La littérature, avec le marquis de Sade, et le cinéma, sans omettre la politique et les faits divers, fourmillent d'exemples allant dans ce sens, trouver le bonheur en faisant le mal à autrui. Tiens, j'ai ouvert ou rouvert il y a quelques jours, par hasard, un des grands livres de Freud, Malaise dans la civilisation, et je suis tombé là-dessus. Le prochain n'est pas seulement une aide ou un objet sexuel possible, mais aussi une tentation, celle de satisfaire sur lui son agression, d'exploiter sans dédommagement sa force de travail, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ce qu'il possède, de l'humilier, de lui causer des douleurs, de le martyriser et de le tuer. C'est ce qu'écrit Freud sur l'homme dans Malaise dans la civilisation. C'est le pessimisme anthropologique fondamental de Freud que vous retrouvez là. Songez à ce qui vient de se passer à Courbevoie, cette gamine de 12 ans, torturée, violée. Pensez aussi à toutes les révélations à la suite de MeToo. Le bonheur de certains semble nécessiter le malheur des autres. Notre société méconnaît l'impératif suivant. L'épanouissement et le désir ne valent que s'ils sont soumis à une intraitable règle de morale. Ce n'est plus le cas. Or, dans la culture hédoniste contemporaine, la morale est ressentie comme désagréable et oppressive, répressive. Elle opprime, en effet, le désir en le passant au filtre de la censure, en cherchant à le canaliser, en le soumettant à des règles. Mais si le désir n'est pas soumis à des règles de morale, nous sommes dans la sauvagerie que je décrivais il y a 5 minutes. Si l'épanouissement n'est pas soumis à des règles de morale, eh bien nous sommes dans l'homme homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Or, le monde dans lequel, le monde hédoniste dans lequel nous vivons, est le monde dans lequel son roi, le désir, le plaisir et l'épanouissement, indifféremment aux règles de morale. Les règles de morale sont repoussées. C'est l'épanouissement du moi qui compte. C'est l'épanouissement du moi qui triomphe, le moi absolu, ce moi que Pascal disait haïssable. Et cela est source de tous les dérèglements que nous observons. Eh bien, on comprend alors la page blanche, la page de bonheur qui est une page blanche qui ne peut pas être écrite, hein, selon le philosophe Hegel. Donc, nous nous posons la question de l'origine de la violence. Je vous pose la question, vous voulez rendre compte de la violence. Violence des individus, nous venons d'en prendre quelques exemples. Violence des communautés, Et ce n'est pas seulement les guerres, c'est aussi, l'on voit les affrontements, par exemple, entre supporters de deux équipes de football. Donc, nous voulons rendre compte de la violence dans l'humanité. Violence présente depuis les origines, Abel et Caïn. Depuis les origines, Abel et Caïn. La Bible vous dit tout. Abel et Caïn, un couple de frères meurtriers. Je tue mon frère. Alors voici une clé que nous trouvons dans la philosophie. Puisque ce que je vous ai promis, c'est de regarder d'un œil de philosophe et à partir des philosophes, le problème de cette série de conférences. On rencontre quelque chose d'intéressant chez un philosophe allemand qui s'appelait Emmanuel Kant, dont tout le monde connaît au moins le nom. C'est le plus grand philosophe des Lumières. Il meurt tout pile octogénaire en 1804. C'est le plus grand et le dernier philosophe des Lumières, Emmanuel Kant. Et il détecte dans un de ses ouvrages ce qu'il appelle l'insociable sociabilité des hommes. Alors ça, c'est très intéressant. C'est une formule à laquelle il est très intéressant de réfléchir. L'insociable sociabilité des hommes. Cette insociable sociabilité présente en plein cœur de l'humanité prise dans son ensemble. En plein cœur de chacun d'entre nous. C'est pas comme ça général. C'est chacun d'entre nous qui est pointé par cette formule « l'insociable sociabilité des hommes ». Cette insociable sociabilité est le caractère fondamental de notre espèce, semble dire le philosophe Emmanuel Kant. Autrement dit, le caractère par quoi on peut définir notre espèce, le caractère par quoi on peut la décrire, notre espèce. Cette insociable sociabilité est donc quelque chose d'invariant, que l'on va rencontrer du commencement de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour être un peu pédant, on dira un invariant anthropologique. Alors soyons attentifs aux mots. Dans cette formule, sociabilité est le nom, le substantif, s'il y a des professeurs de grammaire parmi vous. Et insociable est l'adjectif. Pourtant, donc c'est deux choses différentes, mais pourtant on ne peut pas les séparer. Les deux, sociabilité et insociable, forment une unité compacte, insécable, comme si le nom ne sortait pas dans la rue sans son adjectif. L'insociabilité appartient alors par essence à la sociabilité humaine. Nous sommes sociables, animal politique, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas clair. C'est pas clair. Nous sommes sociables, oui, par nature, mais non, c'est pas clair. Il y a une faille qui traverse cette sociabilité. Et on le voit tout le temps. Cette faille, c'est que nous avons des réticences par rapport aux autres. Nous avons des réticences à entrer pleinement avec les autres. Cette faille, c'est... Donc, il n'y a pas de sociabilité parfaite, sereine. Je suis, vous êtes, nous sommes tous insociablement sociables. Tous. Notre sensibilité, notre sociabilité naturelle, première, est habitée par une réticence à coopérer pleinement avec les autres. Elle est habitée par de la mauvaise volonté, par une hostilité envers les autres, y compris dans les familles. Elle est habitée par la propension à tirer la couverture à soi, toujours. Elle est habitée par une hostilité latente envers les autres, par la tentation toujours continue de l'hostilité. Freud, c'est ce dont il nous parlait tout à l'heure. Alors, chaque homme veut tout diriger selon son point de vue. Chaque homme sait lui-même qu'il est enclin à résister aux autres. Cela, c'est Kant qui le dit aussi. Alors, regardez la vanité, la jalousie, le désir insatiable de posséder, le désir insatiable de dominer. Et partout, en eux, en vous, en moi, partout, c'est comme si un ver mauvais ronge la sociabilité humaine sans la détruire parce qu'elle est première. Un ver qui la menace de l'intérieur. Il agit à la fois à l'intérieur des communautés, à commencer par la communauté de base, la famille, où il y a toujours des tempêtes, et il agit aussi, ce ver mauvais, dans le rapport des communautés entre elles, y compris les communautés politiques, que sont les États et les nations, y compris les communautés de supporters d'une équipe de football, comme je l'ai déjà dit. Pensez à la violence qui éclate parfois entre parents, entre amis. L'hostilité à la sociabilité agit ainsi du micro, du plus petit, la famille ou les amis, au macro, c'est-à-dire les nations, les empires, l'histoire. Une querelle entre frères est alors la guerre en petit. Abel et Caïn, vous disais-je il y a 5 minutes. La science ne confirme qu'une unité biologique de l'homme. Ce n'est certes pas rien, mais ce n'est qu'une vision de boucher, n'est-ce pas ? Cela ne permet pas d'aller bien loin. Qu'importe, au fond, que nous soyons tous biologiquement semblables. Ce savoir fourni par la science ne permet même pas de lutter contre le racisme. Parce que la source de ce dernier campe ailleurs. La couleur de peau n'est pas la cause du racisme. Elle en est le prétexte. La source du racisme plonge ailleurs, dans l'imaginaire, dans l'inconscient, dans le mal radical ou dans le péché originel. Or, notre affaire dans cette conférence, c'est d'identifier une unité véritable, plus matérielle, plus essentielle de l'espèce humaine et pas matérielle. Donc une unité que je vais appeler, veuillez m'excuser, ontologique. Ontologique, c'est qu'il y a rapport à l'être. Et unité biologique et unité ontologique de l'espèce humaine sont deux choses différentes. Je vais essayer de l'expliquer. Quand on parle d'unité ontologique, c'est-à-dire essentielle, de l'espèce humaine, c'est-à-dire d'une unité par essence, différente de la simple unité bouchère, si vous voulez, de la simple unité biologique, à quoi fait-on référence ? On songe à ceci, à une unité dans les aspirations les plus élevées de l'être humain, à une unité spirituelle. C'est une unité par les réalités qui extrait l'homme de son animalité, les sentiments, pas seulement les affections, comme en développent les animaux, la pensée symbolique, le langage articulé, le besoin de sens, le besoin de transcendance, l'accès au monde des idées, le monde intellectuel, le monde religieux, le monde spirituel, eh bien tout cela c'est présent depuis le début dans toutes les civilisations. Tout cela c'est présent depuis le début dans toutes les sociétés, y compris, si vous regardez les études d'ethnologie, y compris les plus minuscules et les plus rudimentaires, qui sont parfois, que Lévi-Strauss l'a montré, plus complexes au point de vue symbolique que les grandes civilisations dans lesquelles nous vivons. Voilà. Et je crois que l'unité de l'humanité, ce n'est pas une unité bouchère, c'est une unité à ce niveau-là. C'est une unité au niveau essentiel. C'est-à-dire, c'est une unité à partir de ce que l'on retrouve partout et toujours. Alors, deux remarques ici. Alors, partout et toujours, je veux dire que c'est une unité à la, partout et toujours, je veux dire, depuis les hommes préhistoriques, mais peut-être également avant. Nous avons un premier couple préhistorique, mais qu'y a-t-il avant le préhistorique? Il y a ce que l'on pourrait appeler le hors-historique. Le hors-historique, c'est Adam et Ève, dont le premier couple préhistorique sont l'ombre, la projection. Et Adam et Ève sont une réalité en tant que premier couple hors-historique, et ce sont nos véritables ancêtres. Et il y a eu un premier couple dans l'histoire biologique que l'anthropologie enfin, peut essayer de repérer cela dans des populations dites préhistoriques. Et je crois que ce premier couple-là est l'ombre du véritable premier couple que fut Adam et Ève. Alors deux remarques s'imposent, parce que c'est de la famille dont nous avons à parler. Vous voyez bien que le thème d'Adam et Ève et de ce premier couple nous conduit à la question de la famille. La famille est ce qui nous précède, chacun d'entre nous. Elle est ce que nous n'avons pas choisi. Et c'est parce qu'elle est ce que nous n'avons pas choisi que qu'elle importe, qu'elle insupporte à l'orgueil de l'homme et de la femme moderne. C'est parce qu'elle insupporte à cet orgueil que le monde moderne tente de la détruire. Cet orgueil dont saint Augustin dit dans les Confessions qu'il est une parodie d'élévation. Voilà. La famille insupporte à l'orgueil du moi contemporain parce que ce moi contemporain veut être son propre point de départ. Et si vous croyez à la famille, vous savez que la famille, c'est ce qui vous précède. Donc, la famille est ce dont nous sommes, chacun de nous, l'héritage. Ce n'est pas le mot d'héritier qui importe. C'est nous sommes un héritage. Ce n'est pas nous sommes des héritiers. Nous sommes un héritage avant d'être des héritiers. Nous sommes ceux dont notre famille et le monde héritent, d'une part. Mais il y a aussi autre chose à dire, je crois, sur la famille. La famille est à la fois une chose, une substance, une réalité sociale que l'on désigne par un nom propre, les Dupont, les Durand, qui vous voulez. Mais elle est aussi autre chose, elle est un lien vécu, un lien qui est dans l'intériorité des personnes. Donc la famille est à la fois quelque chose d'objectif et quelque chose, non pas de subjectif, mais d'intérieur, quelque chose d'impalpable, un lien vécu, un lien ressenti. Donc je voulais vous dire que l'humanité est à la fois une, biologiquement, qu'elle est aussi une spirituellement, mais qu'elle est fractionnée en communautés nombreuses, réparties sur toute la Terre. Et le fractionnement s'accompagne de déchirements inévitables. Où nous retrouvons nos deux thèmes, les pages de bonheur et l'insociable sociabilité. Alors ce ne sont pas uniquement les intérêts qui engendrent les conflits, contrairement à ce que suggère un matérialisme banal, celui de Marx par exemple. Un matérialisme au fond rassurant. Pourquoi rassurant ? Rassurant parce que le matérialisme suggère qu'il suffirait d'en finir avec les inégalités et les intérêts pour en finir ipso facto avec les guerres, avec la violence, avec les conflits. C'est l'illusion matérialiste. Ce fut en philosophie l'illusion marxiste et en politique ce fut l'illusion communiste. Illusion selon laquelle la satisfaction collective des besoins matériels des hommes produirait une société heureuse et une humanité sans violence. Le jour, par exemple, où les luttes de classe seront éteinte par l'absorption de toutes les classes rivales dans une seule, le prolétariat enfin vainqueur, ce que suppose le marxisme, eh bien alors nous parviendrions à une humanité sans conflit, heureuse, dans laquelle chacun aurait besoin de... obtiendrait tout ce dont il a besoin et du coup il n'y a plus de conflit. Eh bien c'est une illusion. Il n'y a pas de communauté possible sans conflit parce que le conflit s'enracine ailleurs que dans les intérêts. Il s'enracine dans l'imaginaire, en particulier l'imaginaire de l'identité. L'humanité existe donc, mais sous quelle forme ? Toujours sous des formes différentes, c'est-à-dire sous des communautés et pas autrement. L'humanité, c'est très curieux, c'est paradoxal, est une unité qui n'existe que dans la différence. Vous n'avez nulle part l'humanité toute pure. Vous avez toujours l'humanité en tant que qualifiée en tant que telle ou telle communauté, c'est-à-dire toujours en tant que différence. C'est la différence qui caractérise l'humanité. Une humanité sans communauté différente, c'est-à-dire sans différenciation communautaire, est impensable. Sans différences internes. Donc on ne peut être homme ou femme que de telle ou telle façon, dans telle ou telle époque, pas en soi. Sinon, on serait un fantôme décharné. On serait comme ça un pur concept décharné. Mais ce n'est pas ainsi que ça se passe. Mais cependant, il ne faut pas croire non plus que l'humanité est la somme ou la synthèse de toutes les communautés qui la fractionnent. Il ne faut pas croire qu'elle est la résultante de la coexistence de ces communautés. Ce serait une interprétation là, empiriste de l'humanité. Là, tout à l'heure, j'ai critiqué une interprétation marxiste. matérialiste, là je critique une interprétation empiriste. Non, l'humanité n'est pas un produit de l'histoire. Je crois qu'elle est tout entière dans chaque communauté. Pourquoi ? Elle est tout entière ici, là. Nous sommes toute l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'elle préexiste idéalement comme idée à toute communauté. Il y a d'abord l'humanité, ensuite les communautés. L'humanité préexiste comme idée. C'est pourquoi, aussi bien dans Alexandrie des anciens Égyptiens, ou dans Sparte, ou dans Rome, ou ici, dans cette salle où nous sommes, c'est toute l'humanité qui est présente, mais chaque fois sous une forme différente, dans la différence, parce que l'homme ne peut pas être autre chose que le différent, ou qu'un différent. L'homme ne peut pas être autre chose que la différence. Alors si l'on regarde ce qui se passe à notre époque, on s'aperçoit que nous sommes dans le brouillard, que nous sommes dans un véritable brouillard par rapport à toutes ces notions. On voit bien que le tissu humain est déchiré de partout, qu'il se déchire de partout. Pourquoi ? Parce qu'il semble que nous n'ayons plus d'idée collective de ce que c'est qu'homme, de ce que c'est qu'humanité. Et ces notions d'homme, d'humanité, sont désormais vécues comme des notions instables. Chacun, alors il n'y a plus consensus là-dessus, chacun ayant son idée de l'homme, son idée de l'humanité. Mais aussi sont devenues instables les notions d'homme et de femme sur le plan sexuel. Il y a donc une crise de ces trois notions, qui est sans doute une crise de la vie humaine. Il faut regarder l'importance que prend aujourd'hui la notion de trans. Alors, ce n'est pas seulement transsexuel, c'est aussi transhumain. C'est très intéressant. Il faut rapprocher les deux, le transhumanisme et le transsexualisme. Les deux, c'est-à-dire, nous naviguons alors dans une sorte d'au-delà de toutes les déterminations connues jusqu'ici de l'humain. Donc, nous sommes dans une période d'instabilité conceptuelle, mais aussi affective, sentimentale, d'instabilité de notion et de manière de ressentir ce que l'on est, qui était stable depuis des siècles et des millénaires, et qui aujourd'hui bouge, sont affectés d'un véritable tremblement. Je crois que le phénomène du transsexualisme traduit cette instabilité. Brouillard, brouillard, oui. Vous savez ce que disait Nietzsche ? Le dégoût de l'homme, voilà mon danger. Voilà. Je crois que le brouillard dans lequel nous nous trouvons, par rapport à des notions comme les notions d'humanité, d'homme, de communauté, remonte au philosophe allemand Nietzsche. Ce dégoût de l'homme s'accomplit chez un très grand, très important philosophe français du XXe siècle, le plus important sans doute, Michel Foucault. Alors Michel Foucault, en 1966, dans son grand et beau livre « Les mots et les choses », célèbre ce qu'il appelle « la mort de l'homme ». Certains philosophes contemporains, à sa suite, et pas seulement des philosophes, contestent d'ailleurs que nous soyons des hommes, qu'il existe quelque chose que nous appelons « humanité », et que si cela existe, c'est un mal. C'est la thèse, par exemple, de Donna Haraway. Pour elle, l'homme est un mensonge, une fiction, un découpage fictif dans le vivant, une agression aussi, dont nous nous servons pour assurer notre domination sur la planète. L'homme n'existe pas plus que les hommes. L'humanité n'existe pas non plus. Nous sommes des bestioles, estime-t-elle, qui travaillent avec les autres bestioles à la terraformation, c'est-à-dire à la formation de la Terre. Bon, vous reconnaissez cette philosophie très à la mode, ça n'est pas si nouveau que ça. C'est l'animisme et le paganisme, au fond. C'est le vieux paganisme qui revient avec des habits nouveaux. Le vieux paganisme qui dit « mais nous ne sommes pas différents des animaux, nous ne sommes pas différents de l'humus, ce paganisme dont Lévinas disait qu'il est une éternelle tentation, et ce paganisme dont la Bible vous garde, hein, vous éloigne, parce qu'il implique aussi l'idolâtrie. Alors donc, nous avons deux choses actuellement, la crise. Nous avons un abaissement de l'homme, c'est le paganisme dont je suis en train de parler, un abaissement de l'homme qui s'accompagne de l'antispécisme, c'est-à-dire du refus de voir que les hommes sont différents des animaux, c'est-à-dire c'est le refus de la Genèse. Que nous dit la Genèse? Qu'est-ce qui définit l'homme? L'homme, c'est l'être qui commande aux animaux. Ça ne veut pas dire qu'il les exploite, ça veut dire qu'il les commande. Donc c'est très à la mode, l'antispécisme lié à ce néopaganisme. Et de notre côté, nous avons le transhumanisme, c'est-à-dire là aussi, on veut se débarrasser de l'homme, on veut l'homme augmenté, peut-être probablement immortel, ou qui vit très longtemps, mais qui au fond n'est qu'une machine et qu'un robot, et qui n'a plus du tout aucun rapport avec le petit enfant qui naît dans un berceau, le petit enfant qui naît dans une crèche ou une mangeoire. Je crois que la conception chrétienne de l'homme est notre meilleur allié pour s'écarter de ces dérives. Donc l'homme, vous ai-je dit, c'est l'animal politique. Et l'humanité, qu'est-ce que c'est ? Qu'appelle-t-on humanité ? Bon, c'est un mot qui est à la fois un mot de philosophe, vous le savez, mais c'est aussi un mot que l'on rencontre dans la politique, dans la théologie, c'est aussi un mot journalistique vague, c'est aussi un slogan, c'est aussi vide alors qu'un logo commercial, c'est aussi un terme de café de commerce, c'est aussi un ressenti subjectif, l'humanité, mais c'est aussi un adjectif, c'est intéressant. Faire preuve d'humanité, agir avec humanité, traiter une personne, un groupe ou même des animaux avec humanité. Vous voyez, l'humanité, c'est à la fois une chose, mais c'est à la fois aussi une certaine attitude devant la vie, une certaine attitude dans la vie. Bon. Et nous retrouvons d'ailleurs là notre critique de l'antispécisme, parce que l'animal n'est pas l'auteur des droits de l'animal, par contre l'homme est l'auteur des droits de l'homme. C'est-à-dire, nous protégeons les animaux, nous lui donnons des droits, mais il ne se les accorde pas. Il ne se les accorde pas lui-même, parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas penser cela. Alors ici, une subtilité s'impose. Chaque nation, chaque communauté, chaque homme se pense dans la différence. On a insisté tout à l'heure sur la notion de différence. Mais pour penser l'humanité, il faut une sorte de saut par-dessus le vide. Il faut que cette communauté se pense à partir de l'universel. Qu'est-ce que je veux dire ? Pour que l'idée d'humanité apparaisse, il faut qu'elle apparaît dans une société, elle apparaît avec le christianisme, en fait. Bon. Pour qu'elle apparaisse, il faut sortir de soi. Et il faut commencer à penser à partir d'un hors de soi. C'est ce que j'appelais un saut par-dessus le vide. C'est-à-dire, la plupart des sociétés, y compris les anciens Grecs, ont pensé que l'humanité, c'était eux. Au-dehors des frontières, il n'y a que des barbares. Voilà. D'ailleurs, pour dire homme, les Grecs disent les Grecs, parfois ils disent aussi les mortels. Bon. Et pour dire Dieu, ils disent les immortels. Si on a le temps, on y reviendra sur cette différence. Mais voilà, avec le christianisme, c'est aussi quelque chose que reprennent les Lumières, arrive quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, ce n'est pas à partir de moi ou à partir de nous, c'est à partir d'un ailleurs que l'on pense l'humanité dans laquelle nous sommes intégrés. Il y a des communautés spirituelles. Si Jésus est venu, l'humanité est une pareille communauté. J'ai parlé de communauté politique, de communauté sportive, des clubs sportifs, etc. Mais communauté ethnique, mais il y a une communauté spirituelle. Et si Jésus est venu, l'humanité est cette communauté spirituelle. L'humanité ne parviendra sans doute jamais dans l'histoire à devenir une communauté politique parfaite. Mais elle est déjà, et jusqu'à la fin des temps, et bien sûr au-delà de la fin des temps, éternellement une communauté spirituelle, dont nous repérons deux unités et au milieu une différence. L'unité biologique du genre humain, de la race humaine, la famille humaine biologique confirmée par la science, et l'unité spirituelle, la communauté spirituelle universelle des hommes. Et entre ces deux étages, entre le sol et le plafond, entre la terre et le ciel, il y a l'homme concret, engagé dans des communautés politiques, par définition limitées, éphémères, en conflit, rivales, toujours prêtes à la guerre, ou susceptibles d'être prises dans la guerre, sans oublier d'être déchirées par les guerres civiles qui couvent toujours. Ainsi, l'homme a des racines dans la nature, c'est la biologie, des racines dans un territoire et dans l'histoire, c'est la sociologie, la politique, les communautés politiques, sous la forme de la nation, sous la forme d'un peuple, et des racines dans le ciel, les racines les plus importantes, c'est la spiritualité, c'est la communauté spirituelle, les racines dans le ciel. Je crois qu'ainsi se disent les trois enracinements de l'homme. Le corps, la communauté politique, le ciel. Qu'est-ce que l'homme? Je pose cette question donc pour sortir du brouillard énoncé tout à l'heure. D'autant plus que c'est une question à laquelle notre modernité cherche à nous empêcher de penser, puisqu'on a dit, vous savez, tout à l'heure, Michel Foucault, l'homme est mort, hein, l'homme ça n'existe pas, c'est une mauvaise question. Bon. Donc nous avons une insuffisance d'ailleurs de toutes les définitions habituelles de l'homme. Alors quelles sont les définitions habituelles de l'homme? L'homme est un animal politique. L'homme est un animal rationnel qui possède la raison. L'homme est l'animal désirant. Marx maintenant, c'est intéressant. L'homme est l'animal qui produit par le travail ses propres conditions d'existence. Hein, cela c'est Marx. Mais tout cela, toutes ces définitions qui s'accumulent, parfois se contredisent, je crois, demeurent insatisfaisantes. Parce que toutes ratent ceci. Je crois qu'un philosophe comme Schopenhauer avait parlé de l'homme comme animal métaphysique. Donc toutes ratent ceci, l'homme est un animal spirituel. Et c'est cette formule qu'il s'agit d'expliquer. Alors, je l'explique par 5 ou 6 items. D'abord, l'homme, c'est l'être doté d'une destinée. Votre chien, votre chat, le puceron sur votre rosier n'a pas de destinée. C'est le seul être vivant orienté par une destinée. L'animal est sans une destinée, c'est un appel qui vient du futur. C'est une aimantation, c'est ça la destinée. C'est la destination et c'est être aimanté par un futur. Donc l'homme possède toujours une destinée et c'est le seul être ainsi. Et d'ailleurs le corps humain lui-même a une destinée, notre corps. Et le philosophe allemand Martin Heidegger a écrit, je crois que c'est très juste, « Le corps humain est quelque chose d'essentiellement autre qu'un organisme animal. » Autre, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, autre? Ben, ça veut dire que le corps humain est, en toutes ses parties, habité, non, pas habité, traversé d'âme. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le corps humain est d'une autre nature que le corps des autres espèces, parce qu'il est spirituel en chacune des pores de ma peau. C'est spirituel. C'est pas un corps comme les autres. Alors, je sais bien que Martin Heidegger était parfaitement athée, etc. Mais ça ne nous interdit pas de prendre une formule dans son œuvre et de réfléchir à cette formule, même si c'est pour aboutir à des conclusions radicalement opposées aux siennes. C'est d'ailleurs toujours ainsi que l'on doit faire. Il ne s'agit jamais de suivre un philosophe comme un petit enfant de maternelle suit l'institutrice. Non, il s'agit de prendre des morceaux et de penser avec, même si c'est pour aboutir à toute autre chose. Alors donc, c'est l'être qui a une destinée, l'homme. C'est l'être doté d'une intériorité. Et cela aussi, notre époque a voulu le détruire. Notre époque, c'est un combat contre l'intériorité. Bernanos lui-même l'a écrit quand il a dit que le monde moderne était une conspiration contre la vie intérieure. Bon. Et toute la philosophie du XXe siècle a essayé de détruire cette notion d'intériorité. Mais non, ça insiste, ça persiste. Souvenez-vous du beau tableau de Millet, Jean-François Millet, l'Angélus. Voilà. Vous avez compris ce que c'est que l'intériorité. C'est indéconstructible, cela. Voilà un couple de paysans. C'est le soir. Ils s'arrêtent. Ils arrêtent leur labeur pour prier. C'est l'Angélus. Et qu'est-ce que cela révèle? Que révèle le tableau? Bien, il révèle ce qui n'appartient à aucune autre espèce animale. Il révèle ce que notre époque veut, c'est la déconstruction, veut déconstruire, éliminer, et qui pourtant, je crois, est indéconstructible. Il révèle que l'être humain possède une vie intérieure et que c'est la plus importante de ses vies. Alors, si j'ai le temps tout à l'heure, si j'ai le temps, je ne sais pas. Oui, si j'ai le temps tout à l'heure, nous essaierons d'évoquer les trois vies. Nous vivons de trois vies, je crois. Bon, mais donc, le deuxième point, donc, c'est l'être qui possède une intériorité. Donc notre vie n'est pas seulement une vie d'apparence, une vie de spectacle, une vie extérieure, mais un autre type de vie qui est invisible et qui est plus importante. C'est la vie invisible qui est la plus importante. Et ici, je tiens à différencier vie intérieure spirituelle de vie psychologique ou vie neurologique, si vous voulez. Je tiens à différencier le spirituel du psychologique et du neurologique auquel certains veulent le ramener. Si vous dites que tout est psychologique, eh bien, il n'y a plus de spirituel. Donc la vie intérieure de type spirituel doit être différenciée de ces autres de vie psychologique et vie neurologique qui sont en fait pas du tout du même type, qui sont la machine du corps, qui sont la vie matérielle, qui sont le mécanisme de la nature. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que ça doit être différencié. Alors, l'homme, c'est aussi l'être qui est un frère ou qui est une sœur. Pourquoi ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'unité de l'humanité, unité biologique, nous descendons tous d'un même couple ou d'un couple premier. Donc, nous sommes tous frères et sœurs. Mais unité spirituelle, c'est pareil. Nous sommes tous frères et sœurs en esprit. Notamment si le couple hors historique, Adam et Ève, est le couple de nos ascendants. Donc c'est important, cela. L'homme, c'est l'être qui est un frère ou qui est une sœur. Et, dernier point, c'est l'homme qui a un corps. Il y a une altérité du corps humain à la biologie. Voilà. Je veux vraiment que l'on réussisse à extraire le corps humain de la seule biologie, de la seule vie animale. Cette altérité, c'est la chose suivante. Le corps humain est une source de mystère. Une source inépuisable de mystère. Quand on le contemple, quand on entre en rapport avec lui, Il y a un mystère inépuisable que les poètes, les mystiques ont su approcher, que les poètes, les mystiques savent percevoir. Donc un mystère qui s'ouvre aux poètes et aux mystiques. Et il faudrait essayer de trouver un mot pour dire ce mystère. Et le mot est un mot ambigu, malheureusement. Parce qu'il a pu servir à autre chose, il peut servir à autre chose, c'est le mot d'aura. Le mot d'aura, A-U-R-A. Alors, laissons de côté toutes les interprétations sur ce mot-là. Bon. Laissons de côté tout ce que vous pouvez trouver dans des discours plus ou moins occultistes, etc., sur l'aura. C'est un ramassis d'âneries. Mais on peut utiliser ce mot pour dire la différence entre le corps humain et les autres, pour dire aussi, sans doute, son intouchabilité, sa sacralité, hein, pour dire que quand nous avons affaire à un corps humain, quelque chose se dégage de lui, quelque chose, un je ne sais quoi, quelque chose se dégage de lui, vient vers nous. Et cela arrive même devant des œuvres d'art, de la peinture, représentant des êtres humains quand elle est réussie, ou cela arrive même, alors j'espère ne pas vous choquer, même devant des cadavres. Ah, ça, c'est très intéressant comme idée. Pourquoi un corps humain mort donne-t-il une impression de sacré? Pourquoi est-on tous, depuis la préhistoire, profondément convaincus qu'il s'agit de quelque chose d'infiniment respectable, qu'il faut respect. Eh bien, c'est l'aura. Eh bien, c'est, lorsque nous sommes devant un mort, que nous le regardons, nous avons quand même l'impression que quelque chose de lui vient vers nous. Je ne crois pas que ce soit une illusion. C'est cela que j'appelle l'aura, ici. L'aura du corps humain, le corps humain vivant ou mort, comme source de mystère. Alors, ce n'est pas comme ça une fantaisie de ma part. J'ai lu dans Simone Veil, Oppression et liberté, les deux lignes suivantes. Peut-être sont-elles écrites derrière. Il est cependant une source de mystère que nous ne pouvons éliminer, et qui n'est autre que notre propre corps. Voilà. Ça, c'est génial. Parce que ça veut dire que la médecine n'aura jamais le dernier mot, la biologie, jamais le dernier. C'est très bien, la médecine et la biologie. Est-ce que ça dit sur le fonctionnement de votre corps? C'est très insuffisant. N'aura jamais le dernier mot. On ne saura jamais. On ne saura jamais jusqu'au bout. Voilà. Source de mystère. Parce que notre corps n'est pas uniquement quelque chose de matériel, parce que notre corps est traversé jusqu'à sa plus petite portion, jusqu'au plus petit grain de peau, grain de beauté, parce qu'il est, parce que le spirituel, l'âme, habite votre corps jusque-là, source de mystère. Alors donc, il faut le dire comme ça, le corps humain est imbibé d'âme, en chacune de ses cellules, en chacune des pores de sa peau. Sa peau est une peau d'âme. Il est ainsi transi de spirituel, en chacun de ses points. Alors peut-être avez-vous entendu parler du dominicain rhénan, Maître Eckhart, qui mourut en 1328. Alors j'aime beaucoup Maître Eckhart. Et il pose une question et il donne une réponse qui m'intéresse beaucoup. Alors on va voir les deux. Alors il dit, qu'arrive-t-il lorsque l'âme reconnaît la révélation et la naissance sans fin de notre Seigneur Dieu dans le royaume des cieux? Et alors qu'est-ce qu'il arrive? La joie. quand l'âme reconnaît cette naissance sans fin. C'est beau cette idée de naissance sans fin dans le royaume des cieux de Jésus. Donc il arrive la joie, la vraie joie, une cataracte de joie à ce moment-là, descend dans l'âme, s'écoule dans l'âme, éclabousse l'âme de lumière. Et alors, Maître Eckhart dit, je cite le mystique Renan, « Une joie venue d'en haut tressaille à l'intérieur d'elle et l'âme se répand de joie dans tous les membres et tout est agréable à l'homme, aussi bien ce qu'il voit que ce qu'il entend au dehors. » Alors, ce qui est beau, l'âme se répand de joie dans tous les membres. Donc, elle infiltre le corps. La joie de l'âme infiltre le corps. La joie de l'âme, par capillarité, entre dans le corps. Je vous parlais des graines beauté, des pores. Voilà le message de Maître Eckhart. Et voilà qui permet de comprendre que le corps humain n'est pas un simple corps biologique. Donc il y a une capillarité du spirituel dans le corporel. L'âme se répand comme ça dans le corps. Comprenons, sous la forme de joie, par capillarité, l'âme investit le corps, l'irrigue, se mélange en lui. Et cette joie ne peut pas être quantifiée. Ça ne peut pas être chiffré. Le mot de cataracte, que j'utilisais tout à l'heure d'ailleurs, qui signifie chute d'eau de grande ampleur sur un fleuve. Le mot de cataracte n'est pas anodin. Joie, joie, pleurs de joie, écrit Pascal dans le mémorial qu'il portait sur lui. Joie, joie, pleurs de joie. Vous voyez la cataracte, la joie de l'âme qui va dans le corps. Pleure, eau. Pleure, fleuve. Pleure, cataracte. La joie de l'âme coule dans le corps humain comme une cataracte, se répand en lui comme un fleuve se ramifiant, s'extériorise depuis les yeux, devenue source et résurgence. Cette joie n'est pas un dosage chimique dont les biologistes pourraient établir la formule. Non, c'est le listing. Cette joie est d'une autre nature que ce dont la biologie peut nous parler. On pourrait dire encore beaucoup de choses, mais je vois que j'ai... Voilà. Alors...